Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h au Caire, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, à quelques heures du discours de politique générale de Donald Trump face au Congrès, l'Ukraine se dit déterminée à coopérer avec les États-Unis malgré le gel de leur aide militaire. Les Européens, quant à eux, mettent le paquet pour se réarmer avec un plan de 800 milliards d'euros et la promesse d'aider immédiatement Kiev. Donald Trump qui intensifie sa guerre commerciale contre le Canada, le Mexique et la Chine, ses trois principaux partenaires commerciaux, qui en retour menacent Washington de représailles commerciales. Le sommet de la Ligue arabe au Caire, l'Égypte présente un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire Gaza en 5 ans. Un plan qui inclut le maintien des Palestiniens sur leurs terres. Enfin, cette incroyable histoire dans la cordillère des Andes, les deux filles d'un alpiniste argentin décédé il y a 40 ans, ont pu récupérer son sac à dos, jusqu'ici prisonnier des glaces. Et ce soir encore, tous les regards sont donc tournés vers Washington, alors que Donald Trump doit s'exprimer cette nuit pour nous devant le Congrès américain. 6 semaines après son retour fracassant à la Maison-Blanche et un second mandat qui a d'ores et déjà bousculé l'ordre international et les États-Unis avec la purge de l'administration fédérale, l'imposition de droits de douane à ses alliés et la suspension de l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Un véritable coup dur pour Kiev. Les États-Unis n'ont d'ailleurs pas tardé à interrompre leur livraison en soutien aux Ukrainiens. La Pologne en constate déjà les effets. Les précisions à Varsovie d'Adrien Sarla.
Les véhicules affrétés pour réceptionner l'aide américaine à l'aérodrome de Jeshuv sont restés vides ce matin. Depuis 3 ans, ce petit aéroport permettait de faire transiter l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine voisine via le hub logistique de Yashchenka. Le Premier ministre Donald Tusk a appelé tous ses ministères à collaborer face à cette situation exceptionnelle.
Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser que la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine n'est que des paroles en l'air. Des rapports nous parviennent de la frontière et de notre hub à Yashchenka. Et évidemment, cela met l'Europe, l'Ukraine et la Pologne dans une situation plus difficile.
Jusqu'ici, la défense polonaise reposait en partie sur le parapluie américain, mais les dernières déclarations de Donald Trump donnent tout leur sens aux 4% du PIB que le pays investit depuis 3 ans pour tendre vers l'indépendance stratégique et militaire.
Il faut qu'on accélère radicalement la cadence. Dans une semaine, nous allons peut-être adopter un projet de loi qui nous facilitera encore davantage les investissements dans la défense et l'industrie d'armement.
Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes avaient fait des questions de défense européenne leur priorité. Aujourd'hui, Varsovie assure ne plus avoir à convaincre ses partenaires européens de s'aligner face à l'urgence de la situation. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
L'Ukraine sous pression qui se dit déterminée pourtant à coopérer avec les États-Unis. Le président Zelensky dit même regretter le clash avec Donald Trump et propose une trêve dans les airs et en mer pour entamer des discussions de paix sous le leadership du président américain. De son côté, l'Europe, elle, resserre les rangs derrière Kiev et prépare son réarmement. Bruxelles a ainsi proposé aujourd'hui la mise en œuvre d'un plan de 800 milliards d'euros pour renforcer la défense européenne, mais également pour fournir une aide immédiate à l'Ukraine. Sur le dossier proche-oriental de Gaza, s'est ouvert aujourd'hui au Caire un sommet arabe extraordinaire sur l'avenir du territoire palestinien que le président américain menace toujours d'annexer pour en faire la Côte d'Azur du Proche-Orient après en avoir expulsé les Palestiniens. Pour contrecarrer ses plans américains, l'Égypte a présenté son propre projet de reconstruction, Julien Chavanne.
Oui, il y a un plan pour que les Palestiniens restent sur leur terre. Dans son programme de 112 pages, Abdel Fattah Al-Sissi promet la reconstruction de la bande de Gaza d'ici à 2030. Et pour gouverner ce territoire, dirigé par le Hamas jusqu'à la guerre avec Israël, le président égyptien propose une sorte de comité des sages.
L'Égypte a travaillé en coordination avec ses frères palestiniens pour former un comité administratif composé de professionnels et de technocrates palestiniens indépendants qui sera chargé de gérer la bande de Gaza grâce à l'expertise de ses membres. Ce comité sera responsable du processus de secours et de la gestion des affaires de la bande pendant une période intérimaire en guise d'introduction au retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza.
Après une période de transition de 6 mois, l'autorité palestinienne ferait donc son retour 18 ans après en avoir été évincée par le Hamas. Le projet est ambitieux, politiquement d'abord, car rien ne se fera sans le feu vert d'Israël qui contrôle de facto le territoire palestinien. Et puis économiquement, le défi est énorme. Abdel Fattah al-Sissi avance le chiffre de 53 milliards de dollars pour nettoyer et reconstruire la bande de Gaza.
Julien Chavanne du service international de RFI est de son côté toujours au Caire. Le président palestinien Mahmoud Abbas propose le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, affirmant par ailleurs être prêt à tenir des élections d'ici un an. Sur un autre front, Donald Trump intensifie sa guerre commerciale avec des droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine. Le président américain qui a mis à exécution sa menace de taxer lourdement ses trois principaux partenaires commerciaux avec des taxes de 25% pour les uns et 20% pour Pékin, et qui ont provoqué une riposte rapide des pays concernés qui promettent des mesures de rétorsion en dénonçant, comme l'a fait Justin Trudeau, une décision stupide, le premier ministre canadien qui accuse d'ailleurs Donald Trump de vouloir faire chuter l'économie canadienne pour pouvoir ensuite parler d'annexion. Riposte également de la Chine qui a imposé des taxes sur les produits agricoles américains. Pékin ira-t-elle encore plus loin dans les représailles? On devrait en savoir un peu plus demain avec l'ouverture à Pékin de l'Assemblée nationale populaire et le discours attendu, discours annuel du premier ministre Li Qiang, Heike Schmidt.
C'est le plus grand rendez-vous politique de l'année et il doit envoyer l'image d'une Chine garante d'un certain ordre mondial qui remplit le vide laissé par les États-Unis. Lao Jingtian, porte-parole de l'Assemblée nationale populaire, n'a laissé aucun doute. Pékin compte, je cite, « apporter plus de stabilité et de certitude au monde ». Seulement voilà, les droits de douane punitifs ciblent la Chine au pire moment. Crise immobilière, chômage des jeunes, demande intérieure en berne. Depuis la pandémie, Pékin peine à remonter la pente. Mais la Chine a une forte résilience et un grand potentiel, a assuré Lao Jingtian. Comment relancer la consommation des ménages et ainsi compenser une possible baisse des exportations frappées par les taxes américaines? Le premier ministre Li Qiang devrait en dire plus lors de son discours devant les quelques 3000 délégués réunis dans le Palais du Peuple. Deux chiffres sont très attendus. D'abord, celui de la croissance qui devrait à nouveau tourner autour des 5%, et puis celui du budget militaire, probablement en augmentation comme chaque année.
Il est 20h08 à Paris, loin des tourments du monde, on prend un peu d'air pur des montagnes en Argentine. Avec cette incroyable histoire de la cordillère des Andes, les deux filles d'un alpiniste argentin décédé il y a 40 ans sur les pentes d'un volcan, ont pu récupérer il y a quelques jours son sac à dos, jusqu'ici prisonnier des glaces, le récit d'Olivier Pron.
Guillermo Viejo avait 44 ans lors de sa mort en 1985 sur les pentes glacées du volcan Tupungato, haut de plus de 6500 mètres à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Très vite, son corps et celui de son accompagnateur avaient été retrouvés, mais pas leurs affaires. 39 ans plus tard, en 2024, une autre alpiniste, Gabriela Cavalliaro, repère dans le même secteur un sac à dos prisonnier des glaces dont elle parvient à extraire une caméra et un piolet. Certaine que ce sac est celui de Viejo, elle contacte ses deux filles, Guadalupe et Azul, qui n'ont quasiment pas connu leur père. Le mois dernier, à la faveur de l'été austral, elles montent une expédition pour récupérer le fameux sac réapparu à plus de 6000 mètres. Elles y retrouvent une veste, un sac de couchage, des couteaux, mais surtout deux bobines de film. Après visionnage, celle-ci prouve que les deux hommes avaient bien gravi pour la première fois la face est du volcan la plus difficile, ce qui n'a plus jamais été fait depuis. Les effets personnels de leur père, elles vont les donner à un musée, en espérant un jour pouvoir en parler à leur mère. Dans notre famille, le mot montagne a toujours été interdit. Elle ne veut rien savoir de la découverte du sac. Elle a été brisée par le chagrin et le vide, dit Assoul. Pour nous, au contraire, c'est un signe qui dit de lui « Je suis toujours là, vous n'êtes pas seul ».
Et on termine ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. Donald Trump a informé ses conseillers qu'il allait annoncer ce soir dans son discours au Congrès la signature de l'accord avec l'Ukraine sur les terres rares. À suivre sur RFI, bien sûr.